je voudrais partager avec vous ma passion pour le bois et pour les ponts et vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec ces beaux matériaux et en plus en les mixant justement avec de l'acier ou du béton, en travaillant intelligemment avec les différents types de produits bois que Didier vous a présentés. Et puis, selon évidemment les souhaits architecturaux, les portées, les fonctions, etc. Donc, déjà un petit rappel de qu'est-ce que c'est un pont. J'ai pris pas n'importe quel exemple, ça c'est un pont fait par CETEC, inauguré en 96. Et là, vous voyez d'ailleurs nos bureaux derrière. C'est donc un pont, c'est quelque chose qui sert pour franchir un obstacle. Un obstacle qui peut être un cours d'eau, une voie de chemin de fer, une route, peu importe, et qui porte elle-même une voie. Donc ça peut porter des piétons, des chevaux, des cycles, des voitures, des trains, même des ponts. On a aujourd'hui aussi beaucoup de ponts canons. Donc quand voilà, on veut faire franchir par une rivière, autre chose. Et donc ça c'est un pont, et un pont est constitué de plusieurs parties. Donc l'établier, ça en fait, je vous ai mis les termes principaux que je vais réutiliser après dans la présentation pour que ça soit clair. Donc l'établier, du coup, c'est la partie des ponts qui permet le franchissement et sur laquelle sont appliquées les charges. Cet établier repose sur les appuis qui s'appellent piles si ce sont des appuis intermédiaires ou culées s'il s'agit des appuis d'extrémité. Entre l'établier et les appuis, normalement, et je dis normalement parce qu'aujourd'hui, vous verrez après dans le cours de vos études qu'il y a aussi d'autres tendances. Mais normalement, il y a des appareils d'appui. Donc les appareils d'appui, ce sont des dispositifs, gomme et acier aujourd'hui, qui servent pour transmettre les charges du tablier aux appuis. Et après, on part, donc la portée de l'ouvrage, c'est la longueur d'une travée. Donc la travée étant une partie comprise entre deux appuis. Et l'ouverture libre, normalement, c'est la distance entre les nues internes de deux appuis adjacents. Et puis on a par exemple les tirants d'air, comme dans ces cas voilà du pont Charles de Gaulle, qui est la distance entre la surface du tablier et les niveaux d'eau de projet. En tout cas, souvent on a par exemple, on parle de gabarit ferroviaire ou gabarit routier, c'est quand un pont franchit un voie de chemin de fer, il faut respecter une certaine hauteur minime pour assurer la sécurité et que les voitures, les trains ne tapent pas contre l'ouvrage. Donc voilà, ça c'était donc les notions de base pour comprendre ce qui vient ensuite. Et alors, pour info, voilà, aujourd'hui on désigne souvent les ponts par leur fonction, donc par la voie portée. Et donc pour route, ferroviaire, etc. Et alors, de tout ceci, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France en bois? Nous avons quelques passerelles. Bon, après, si on compte, moi je compte pas les petites passerelles de parc, comme vous pouvez voir de temps en temps, qui font une, deux mètres, ça ok, c'est anecdotique. Quand je parle de passerelles, c'est plusieurs mètres, disons, à partir de 10, 20 mètres, voire plus. Donc il en existe de plus en plus, et puis il y a quelques rares ponts-routes. Alors il faut savoir qu'en France, on compte aujourd'hui à peu près 270 000 ponts-routes, et aujourd'hui en bois, il y en a une quinzaine. Chez nos voisins européens, juste petite anecdote, on a fait les comptes il n'y a pas très longtemps, parce que pour une présentation interne CETEC, par exemple en Suisse, en Finlande, en Norvège, il y a à peu près 4% des ponts au total sont en bois. En Suisse, ça correspond à 1500 ponts en bois, ponts-routes hein, et ponts-routes et passerelles. Et par exemple, en Suède, depuis 1994, les 25% des ouvrages d'art qui sont construits tous les ans sont en bois. Ça, c'est grâce à un programme national public qui incite les constructeurs et les gestionnaires d'autoroutes et des routes à construire en bois. Donc ça se fait, ça peut se faire, et nous, on veut le faire en France. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte sur ce que moi j'appelle les ponts en bois modernes, donc réalisés à partir de surtout des années, début des années 90. Dans les cours qui suivra au cours de l'année, donc je vous parlerai un peu plus aussi de l'historique des ponts en bois, donc du début un peu jusqu'à nos jours, et puis en particulier de tout ce qui est bonne conception, comment faire pour que les ponts soient durables et que du coup il arrive à assurer une durée de vie de 50 ans voire 100 ans. Donc aujourd'hui on va surtout parler des ponts routes parce que c'est le vrai défi pour moi des années à venir. Comme je vous ai dit, les passerelles elles se démocratisent de plus en plus, mais sur les ponts pour charge de trafic, il y a encore un peu de résistance, notamment vis-à-vis des donneurs, enfin, de la part des donneurs d'ordre. Et donc, on va distinguer entre. Je vais vous présenter d'abord les principales typologies des tabliers. Donc, on rappelle le tablier. Oups. C'est là où les charges s'appliquent. Mon pointeur ne marche pas. Et après, on va. Donc, il y a des tabliers. Et là, on retrouve un petit peu tous les produits que Didier vous a présentés. Donc, les tabliers en bois massif, à lame décollée, il y a des tabliers qui sont en bois précontraint, et puis les bois béton, et bien sûr aussi les CLT. Et puis, on a, donc ça c'est le type de tablier, et puis on a plusieurs typologies structurelles pour les ponts. Je vous ai mis là les trois principales qu'on retrouve, donc les treillis, les béquilles et les ponts en arc, mais il y en a plusieurs, et je vais vous montrer à la fin justement quelques exemples un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc pour les tabliers en bois massif, ça c'est vraiment le plus simple, les béaba. Il s'agit en fait d'avoir des poutres principales en bois sur lesquelles reposent des planches en fait en bois massif qui peuvent être disposées à plat ou alors en vertical. Et le problème de ces platelages, c'est qu'en fait ils sont très souples, donc par exemple on peut pas y appliquer une couche de roulement type chaussée bitumineuse, et du coup on les utilise uniquement pour des petites passerelles, pour franchir des obstacles relativement petits, et ils sont souvent remplacés au cours de la vie d'un ouvrage. Donc étape suivante pour améliorer le système, c'est en fait de remplacer les planches en bois massif par des planches en lamé décollé. Donc vous savez ce que c'est maintenant, le lamé décollé, et donc on l'utilise de la même façon. Souvent c'est posé à plat. On peut avoir aussi des clous, des broches entre les plats, les platelages pour améliorer la raideur. Et donc c'est toujours des utilisations sur des portées limitées, mais au moins le système est un peu plus raide et plus performant. Après, voilà, pour ce qui se fait beaucoup, surtout en termes d'établis en bois, surtout dans les pays scandinaves, ce sont les établis précontraints transversalement. Donc, en fait, ce sont les systèmes de précontraintes qui se rassemblent à ce qu'on peut retrouver dans du béton. Mais là, en fait, on a donc des planches, souvent en bois massif, qui sont disposées à la verticale. Et puis, il y a des câbles de précontraintes qui en fait, servent pour précontraintes transversalement, donc pour garder ensemble toutes ces planches. Et conférer une raideur suffisante au platelage pour pouvoir permettre des charges importantes, donc notamment les charges de voitures et de camions. Et la précontrainte, elle peut être en interne, comme on voit ici, ou alors de la précontrainte extérieure. Donc là, on voit qu'en fait, il y a un système d'ancrage, et puis il y a deux câbles de précontrainte, des parts et d'autres, au-dessus et en dessous du platelage. Alors, ces systèmes-là, ils sont étudiés spécifiquement pour être utilisés avec des applications bois. C'est pas les mêmes, évidemment, que pour du béton. Parce qu'il faut qu'il y ait une diffusion des efforts concentrés de la précontrainte suffisante pour pas écraser, pour pas que les premières lamelles soient trop comprimées et donc qu'elles s'écrasent. Et ils sont relativement performants. L'efficacité est pratiquement celle d'un tablier béton. L'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers, comme il s'agit du bois, et donc souvent on les utilise, par exemple, dans des réhabilitations d'ouvrages, quand on veut réduire les poids propres d'un ouvrage existant. Et ça, c'est le fait de remplacer un tablier béton par un tablier bois, c'est la meilleure façon de réduire déjà les charges permanentes. Et là, on voit un peu l'évolution donc de ces tabliers pour réaliser des tabliers en caisson, des géométries en T ou en caisson fermée, donc qui sont encore plus raides. Et ça, c'est un peu disons la projection. Qu'est-ce qu'on veut envisager dans le futur? Et on commence à parler là d'ouvrages d'un certain envergure. Comme je vous disais, ce sont des systèmes qui sont utilisés beaucoup en Norvège, et la typologie en question en particulier, on la retrouve aussi en Amérique du Nord. Et là, on peut aussi, au lieu d'avoir des planches de bois précontraintes, les planches de bois sont remplacées par du bois lamellé collé ou du LVL pour gagner en raideur. L'autre typologie de tablier qu'on verra énormément dans les exemples que je vais vous montrer, ce sont les tabliers mixtes, donc bois-béton. En ouvrage d'art, on a plutôt cette configuration-là. Donc, on a la dalle béton qui est connectée aux poutres en lamé décollé. Ça, c'est plutôt, on l'utilise plutôt sur des planchers des bâtiments. Donc, en fait, c'est vraiment une dalle de bois sur laquelle est coulée une dalle de finition en béton. Et puis, effectivement, il y a des systèmes de connexion diffus qui permettent aux deux matériaux de travailler ensemble. Pour assurer la connexion, il existe différents types de connecteurs. C'est des connecteurs métalliques. Qui peuvent être donc par exemple les barres de béton, les acides béton armé. On les verra dans un exemple ensuite. En fait, on a c'est en gros quelque chose qui rassemble ce que vous voyez là-haut. Donc on peut avoir des vis, mais souvent on a vraiment des acides béton armé qui sont disposés en croix. Et cette connexion-là est une des connexions les plus raides aujourd'hui qui existent pour assurer le comportement presque comme une section monolithique entre le béton et le bois. Les autres types de connexions, par exemple les treillis, les anneaux, etc., ils existent aussi. Ils sont pas tous adaptés à des ouvrages d'art. Et en gros, il n'y a pas vraiment une connexion qui est préférable pour les ponts. Ça dépend du type d'ouvrage, des charges apportées et du fait qu'on veut assurer ou pas les monolithismes de la section. Des fois, on a des ouvrages avec mixte, avec dalle bois, béton et poutre bois, mais qu'on veut pas faire travailler ensemble parce que c'est plus, en fait, du point de vue calcul, ça marche mieux quand les bétons et les bois glissent l'un sur l'autre. Et donc, dans ces cas-là, on aura des connexions. Des connecteurs qui sont très espacés et qui sont très souples. Et donc, le choix de la connexion dépend de ce qu'on veut en faire et du comportement in fine qu'on souhaite pour notre tablier. Souvent, quand il s'agit de les mettre en œuvre, ça passe par des tests aussi, des tests en vraie grandeur, pour définir un peu les caractéristiques justement de raideur de la connexion. Et puis surtout son comportement à la fatigue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un sujet essentiel pour les ouvrages d'art, notamment les ponts routiers, c'est tout ce qui, les phénomènes de fatigue, donc le fait qu'on a des charges cycliques qui interviennent régulièrement sur l'ouvrage, et donc tout matériau en fait soumis à des charges cycliques a un comportement qui est différent par rapport à celui qu'il peut avoir pour des charges instantanées qui ont lieu une seule fois dans la vie de l'ouvrage. Et donc tout ça, il faut l'apprendre, et particulièrement pour le bois, c'est un aspect important. Et puis, bien évidemment, puisque comme Didier l'a montré, il s'agit finalement de produits très raides et très performants et qui permettent d'avoir vraiment un comportement en plaque selon les orientations en fait du fil du bois. On utilise de plus en plus aussi des tabliers en CLT. Donc, en fait, on a le béton est remplacé par les panneaux de CLT. Après, on peut là, c'est pas le schéma. Décidément, je vais y arriver. Ok, il ne veut pas contribuer. Voilà. Le schéma, en fait, ici, c'est sur une poutre. Les poutres principales sont métalliques, mais ça se fait aussi bien. On peut connecter aussi des poutres à lamelles collées, par exemple, avec des planchers, enfin, des tapis et des dalles CLT. On a quelques exemples, dont un en France où on a utilisé ces panneaux. Et je vais vous montrer ça par la suite. Donc, en ce qui concerne les typologies structurales, qu'est-ce qu'on peut faire avec les bois? On peut faire pratiquement tout. Là encore, ça dépend des portées, des charges à appliquer et un peu aussi de ce qu'il veut faire l'architecte. Disons qu'aujourd'hui, on retrouve les systèmes classiques poutre principale. Après, on a les treillis. Alors, les treillis, c'est en fait les marques de fabrique des Norvégiens. Vous verrez après que c'est eux qui ont commencé. Ils ont développé en fait des systèmes un peu visant une standardisation pour réduire notamment les coûts de production de leurs ouvrages en bois. Et le système, en fait, ceux qu'ils ont trouvé être les plus adaptés pour la plupart des franchissements routiers, c'est des systèmes treillis. Donc, ils en ont plusieurs aujourd'hui dans leur pays. Et ça peut être un treillis classique ou alors, par exemple, ça, c'est un treillis sous-tendu. Et puis, on a des ponts à béquilles. Ça, il y en a aussi un certain nombre en France. Donc, je vous les présenterai tout à l'heure. Avec aussi les deux peuvent être combinés, donc on a un treillis pour le tablier et puis des béquilles pour les piles, et puis on a bien sûr les arcs Et on peut aller jusqu'à des ponts suspendus au Banet. En France, il y a une belle passerelle qui est un bon exemple de ce type de réalisation. Donc, pour les ponts en treillis, comme je vous disais, la Norvège est la patronne absolue de ce type de structure. Et puis, je vais vous montrer aussi quelques exemples un peu qui viennent d'autres coins du monde. Et bien sûr, disons, une parenthèse sera faite aussi concernant les ponts couverts, qui sont des ponts en treillis, donc, mais qui ont la particularité d'être protégés par un toit, comme on faisait dans l'Antiquité. Et les Suisses, ils en ont énormément dans leur pays parce que, en fait, ils considèrent que c'est la meilleure façon de protéger les éléments porteurs, donc la structure bois, de tout ce qui est agent atmosphérique, intempéries, etc. Donc ça, ce sont deux exemples de ponts norvégiens qui commencent à dater. Bon, la Vestante, c'était un des premiers qui a été réalisé et donc il date de 96. Il faut savoir qu'en 94, ça, c'est un peu la date clé pour les pays scandinaves parce qu'il y a le Nordic Timber Bridge Program qui voit le jour. Et en fait, c'est un programme qui réunit un peu les industriels, les professionnels du métier, les ingénieurs, les gouverneurs des quatre États scandinaves pour bâtir un programme de développement des ouvrages d'art en bois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, étant donné en plus qu'ils ont beaucoup de ressources locales, la Scandinavie est vraiment les leaders en Europe des ponts en bois. Et donc ça, c'est vraiment ça, c'était un ouvrage neuf complètement, les Vestades et les Flisa. La particularité du Flisa, c'est qu'en fait, il a été, c'était un, ça rempla, c'est un remplacement d'un pont en treillis métallique existant. Et donc ils ont conservé les piles d'époque en pierre et ils ont remplacé le tablier. Alors on voit que donc leur conception est basée sur des treillis hauts, relativement hauts, avec après des systèmes de suspens, des diagonales, arcs, etc., supérieurs, inférieurs à lamelles collées, et après un système de suspentes métalliques. Et les tabliers sont tout le temps des tabliers en bois précontraint transversalement. Ça, les portées varient. Alors, pour les portées courantes, on parle à peu près d'une quarantaine de mètres. Alors, ça, c'est que des ouvrages catégorie 1, donc vraiment pour le calculer avec les charges de trafic maximales. Ici, nous avons donc ça, c'est les portées, c'est 40 mètres à peu près, et ça, c'est la portée vraiment classique. Mais là, le Frisa, par exemple, la portée centrale, la voisine est 70 mètres. Et donc là, on voit ici donc les caractéristiques typiques de ces ouvrages. On voit donc tout le treillis en lamelles collées avec les suspentes en acier, et puis on voit en fait les tabliers où la dalle, qui est un bois précontraint transversalement, repose en fait sur des entretoises métalliques. Alors, on voit la couleur foncée un peu de ces treillis. C'est pas la photo, c'est vraiment parce que le bois en Norvège, il est traité par il est peint, la couche extérieure elle est peinte par de la creosote. C'est une huile qui est pratiquement interdite en Europe, mais que les Norvégiens continuent à utiliser en exception parce que c'est en fait ça a été décrété comme cancérigène probable. Mais c'est le secret de la durabilité de ces ouvrages qui sont du coup complètement exposé. Le bois, il est exposé aux agents atmosphériques, et donc cette huile-là permet de la protection du bois, et ça évite qu'il y ait des pourritures qui viennent manger, surtout au droit des connexions. Par exemple, sur les connexions ici, les points clés où il y a de l'humidité qui peut s'engouffrer, du coup, après, il peut y avoir des champignons, etc., qui et donc le bois, il s'abîme, et la connexion est les plus efficaces. Vous verrez tout ça, tous ces aspects de durabilité, vous les verrez avec mon collègue lors du prochain cours. Mais disons, donc ici, eux, ils arrivent à résoudre cette problématique par l'utilisation de bois traité à la creosote. Le fait qu'en Europe, la creosote ne soit pas utilisée, enfin, en fait, on essaie vraiment de pas s'en servir, parce qu'il y a des exceptions où on pourrait le faire, fait que, par exemple, les Suisses, comme je vous disais, ils préfèrent faire des ponts couverts plutôt que d'avoir des structures comme ça à devoir traiter en creosote. Là, on voit donc les câbles de précontrainte hein, transversales, comme je vous montrais tout à l'heure dans les chemins. Et puis, à savoir que les garde-corps qu'on voit ici, donc ces garde-corps routiers qui doivent du coup éviter que s'il y a une voiture qui tape contre le garde-corps, bah, que la voiture finisse dans le cours d'eau. Et donc, ces garde-corps-là, ils ont été testés, conçus et homologués exprès pour être utilisés sur des tabliers bois. Donc l'investissement était relativement colossal en Norvège. Ça, c'est un autre exemple. On voit un mélange entre Arc et Treuilly. Et pareil, on a des portées maximales qui avoisinent les 70 mètres de long. Et on retrouve encore donc les mêmes structures avec des arcs en lamelles collées. Et puis ici, le tablier en bois, mais avec de traverses métalliques. Alors ici, vous voyez un peu des espèces de petites plaques couleur cuivre. Et bien en fait, ici, cette fois-ci, ils ont, enfin, la partie supérieure de la charpente bois a été protégée par celles qu'on appelle des couvertines. Elles peuvent être en cuivre, elles peuvent être en zinc, elles peuvent être en acier inox. Et donc ça, c'est une sorte de couverture, hein, de protection qui empêche du coup que l'eau de pluie, par exemple, pénètre dans le bois sur les faces les plus exposées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les ponts en bois. Et puis, cet autre exemple que je vous ai mis ici, alors ça, c'est un pont militaire. Donc, celui, il porte des convois militaires. Et en fait, c'était un choix de l'armée d'avoir ce pont en bois, parce que en fait, vous voyez, c'est dans une zone qui est en pleine forêt, et donc ils trouvaient que le choix du bois, ça s'y prêtait bien. Et donc la structure a été conçue. Alors les portées ils sont autour de, enfin celle du milieu là, la plus importante, c'est autour des 40 mètres. Après on a des portées un peu plus petites. Et cette fois-ci le treillis il est par les dessous, et donc l'établier c'est un tablier en béton, mais les deux sont pas collaborants. C'est-à-dire qu'en fait, vous verrez après que finalement, il y a une liaison qui permet à la dalle de glisser sur le bois pour éviter de rapporter, par exemple, tout ce qui est charge de freinage, charge horizontale sur la structure bois en dessous. Et une particularité, c'est que par exemple, là, on voit deux piles qui sont assez massives en béton, alors qu'après, à côté, il y a des pilettes en acier. C'est parce qu'en fait, ces piles-là ont été conçues pour les chocs de bateau, pour résister aux chocs du bateau. Alors que pour les autres, on a fait les calculs en supprimant une de ces piles et on a vérifié que le pont pouvait tenir même si une des piles était endommagée par un choc de bateau, par exemple. Donc il faut aussi optimiser un petit peu la conception en fonction de, voilà, pour pas faire, voilà, là, ici on aurait pu faire les mêmes piles massives et énormes un peu partout. Finalement, avec une conception intelligente, on a gagné sûrement un bilan CO2 puisqu'on a utilisé moins de béton. Et alors ça, c'est la connexion type. Donc ici en particulier, c'est la connexion entre le courant inférieur du treillis et deux des diagonales. Et en fait, vous voyez qu'on a des plaques métalliques qui sont moisées, donc qui sont insérées dans des entailles réalisées dans les éléments en bois. Et puis ces plaques, elles font typiquement, enfin l'épaisseur typique c'est 8 mm. Et le bois et le métal, en fait, ils sont connectés, les tout est connecté transversalement par des systèmes de broches et de boulons que vous voyez ici. Et donc ça permet en fait le monolithisme du nœud. À noter que il y a toujours une petite distance assurée, enfin les éléments de bois, les bois ils se touchent jamais, et ça c'est parce que, comme vous verrez lors des prochains cours, les bois étant un matériau anisotrope, les comportements le long du fil du bois ou perpendiculaire n'est pas du tout le même, ils gonflent et se rétractent avec des variations d'humidité mais pas de la même façon, et donc il faut laisser libre ce bois de se dilater ou se contracter, autrement on va engendrer des contraintes et des sollicitations internes qui peuvent causer la rupture du nœud. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la connexion donc entre la dalle béton et les poutres en bois. Et vous voyez, il y a un jeu justement qui permet donc à la dalle de glisser sur la structure bois. Et après, voilà, pour finir sur les treillis, quelques exemples de ponts à ferme. Donc, ce sont des fermes triangulaires, un peu comme celles que Dia présentait pour les applications en bâtiment, mais à une échelle un peu plus grande. Alors, celui-ci, pour l'anecdote, c'est, je crois bien, les plus anciens ponts des États-Unis de ce type, il a été en fait classé et grâce à des réparations et à une bonne maintenance, en fait, il est encore en vie et encore en service. Et après, bien sûr, dans les ponts à ferme, je ne pouvais pas ne pas vous citer celui qui aujourd'hui est le plus gros pont en bois béton du monde. Il se trouve en Finlande, et donc il a un nom imprononçable que je vais passer. il est constitué donc de des poutres à lamelles collées pour les fermes. Hein. Ce sont des fermes à lamelles collées avec des diagonales tout à lamelles collées et après des contre-hêtrements et des suspentes en acier inox. Et là, on voit la coupe transversale. Donc, encore, on retrouve les portées. Je vous disais tout à l'heure les portées classiques, donc 42 mètres de portée. La longueur totale, 180 mètres, ça commence à faire. Et puis, donc pour étant donné la largeur du tablier qui est quand même important, il porte deux voies de circulation et une passerelle piéton et cycle sur les côtés. Et ben du coup, l'établier, c'est un tablier mixte composé d'une dalle béton par le dessus, des poutres principales à lamelles collées et des diagonales et des courants inférieurs en acier. Les poutres principales, en plus, vous voyez un peu ici, pour augmenter la raideur justement et la résistance à la flexion de ces éléments, elles sont en réalité des poutres doublées. Donc à chaque fois, il y a deux poutres côte à côte. Et donc ça, là vous voyez quelques détails. Donc déjà, la connexion dont je vous avais parlé au début, donc avec les barres, les aciers de béton armé pliés, inclinés, qui sont du coup insérés dans des trous préalablement réalisé dans les éléments de bois, dans les poutres bois, et après on vient coller dedans par de la colle époxy, et donc tous ces barres, elles sont après noyées dans le béton qui est coulé en deuxième phase. Et ici, vous voyez des détails des connexions, et notamment ce que je voulais vous montrer, c'était en fait le fait que tout ce qui est charpente métallique en contact avec du bois doit être absolument obligatoirement de l'acier galvanisé ou acier inox. Puisque autrement, s'il y a de la corrosion qui a lieu dans les pièces d'acier, ben ça va créer pour après des dégâts dans le bois. Et donc c'est cher, c'est polluant l'acier galva, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaye d'avoir aussi des conceptions de plus en plus réfléchies pour minimiser le nombre d'assemblages. Et pour passer au pont couvert, donc quelques exemples en Suisse que j'ai eu la chance de visiter moi-même il n'y a pas trop longtemps. Donc ça, c'est la passerelle de Wimis, et une passerelle qui d'une quarantaine de mètres au total pour les piétons et pour les cycles. Mais alors les cycles, c'est impressionnant la quantité de vélos qui transitent sur ces ponts toutes les minutes. Et en fait, voilà, ici l'idée est que la structure, la charpente porteuse qui est ici dans la partie centrale, en fait, elle soit protégée de la pluie par cette toiture, et donc en fait ça permet de minimiser les traitements chimiques dans le bois. Et ça, c'est une constante chez nos amis suisses. Donc là, on voit un autre exemple. Donc ça, c'est une autre passerelle qui franchit une autoroute, et en fait ici on a joué sur ces bardages en lamelles pour protéger donc la structure porteuse qui est en dessous. Ce bardage, c'est un bardage, comme on dit, sacrificiel, c'est-à-dire qu'on considère que tous les 10 à 20 ans, on le remplace par un neuf. Ça, c'était quelques images de la mise en place, parce qu'en fait, par sa légèreté, un des gros atouts d'un pont en bois, c'est qu'en fait, il suffit de quelques heures pour le réaliser, pour le mettre en œuvre. La plupart, surtout pour des moyennes portées, petites moyennes portées, la plupart de la structure est réalisée en atelier. Et après, elle est placée à la grue. Donc là, avec une interruption de nuit de la circulation de l'autoroute pendant quelques heures, on a pu mettre en place le pont. Et donc ça peut avoir des avantages, notamment pour les concessionnaires autoroutiers quand il s'agit d'interrompre la circulation. Et ça, c'est un autre pont, cette fois-ci, très récent, hein, inauguré en 2019, mais c'est un pont route. J'ai vu moi-même passer dedans des convois agricoles, donc c'était assez impressionnant. J'ai pas la photo ici, mais j'ai réussi à la prendre. Les convois, ils faisaient à peu près les tracteurs toute la taille du pont là, de la section transversale. Et ici, en fait, ce qui était intéressant, on retrouve du coup le même système de bardage par lamelles, Et les connexions entre les éléments de charpente bois sont des connexions, sont des tiges collées en fait. Ce sont des tiges qui sont en fait collées dans les, dans, directement à l'intérieur de, des éléments de bois, donc sont, elles sont complètement invisibles. En ce qui concerne les ponts à béquilles, donc à béquilles, comme je vous disais, il y en a pas mal d'exemples en France, donc c'est surtout ceux-là que je vais vous montrer. Et puis un petit pont au Danemark qui est très sympathique par ses caractéristiques. Ah, donc les ponts de Merle est sûrement les plus anciens et même un des plus impressionnants au niveau taille. Ici, le choix du bois, c'était bien sûr un choix architectural dès par enfin l'emplacement du pont en plein forêt encore une fois, mais aussi fonctionnel puisqu'en fait l'archi a essayé de d'avoir des sections droites relativement simples à assembler pour et simples aussi à cheminer parce que vous voyez la ravine sur laquelle dans laquelle que le pont franchit, il fallait quand même assurer la constructibilité de l'ouvrage. Et donc ceci a été possible en réalisant d'abord donc les béquilles, donc ce sont les supports que vous voyez ici, et puis l'établier par-dessus. On voit ici les rotules métalliques qui assurent l'assemblage entre les différents morceaux de poutres. Souvent, les contraintes, ce sont des contraintes pour la longueur des poutres, ce sont liées soit à l'atelier, donc contraintes de fabrication, et puis la plupart des cas, c'est lié au transport. Donc, il faut des longueurs qui soient transportables. Aujourd'hui, on dépasse rarement les 20 mètres pour des questions de transport. Et ici, on voit l'établier, donc c'est un tablier bois-béton, on voit les poutres qui sont des poutres doublées, justement pour augmenter l'inertie, comme je vous disais auparavant, les contraintements métalliques entre les poutres, et puis la connexion par des goujons avec la dalle béton. Ici, j'ai mis encore quelques détails, donc vous retrouvez donc tout ce qui est acier galvanisé pour les connexions, donc ça typiquement c'est ce que vous voyez ici après hein, après réalisation, les pieds de béquille, donc là qui s'est rotulé, vous voyez bien ici l'articulation, encore l'acier galva, et puis là par exemple vous pouvez remarquer ce détail là où en fait on a protégé une zone sensible vis-à-vis de l'humidification et de la stagnation d'eau encore une fois par des couvertines. Donc ça, c'est pour la durabilité. Autre pont à béquilles, ça, c'est un pont autoroutier. C'est une bretelle autoroutière, donc les ponts de Chavanon. Et vous retrouvez un petit peu les mêmes principes, donc de tablier en béton et charpente bois, et plusieurs détails de connexion qui assurent justement le bon fonctionnement d'ensemble de l'ouvrage. Et puis les ponts des crestes. Alors celui-ci se différencie un peu des autres puisqu'en fait c'est celui dont je vais vous parler avec un tablier en bois. Vous les voyez ici en fait dans les photos du haut. La structure est en Douglas. Donc je vous ai pas dit au début, mais disons que aujourd'hui, enfin évidemment les lamelles collées c'est ce qu'on utilise le plus en ouvrage d'art et souvent c'est du sapin ou de l'épicéa. Par contre, pour améliorer la durabilité, les essences les plus durables, c'est des essences, notamment c'est le Douglas ou les mélèzes, et donc ça, évidemment, c'est plus cher. Mais souvent, on préfère utiliser ces essences-là, encore une fois, pour réduire les traitements. Et donc là, le choix qui a été fait, c'est d'utiliser les Douglas, justement parce que finalement, les structures étaient relativement exposé, donc un peu difficile à protéger. On voulait justement, l'archive voulait que le bois soit visible, et donc on a préféré une essence plus durable par rapport à l'épicéa. Et ça, c'est l'exemple au Danemark. Donc, je vous ai mis quelques images qui montrent encore une fois la rapidité d'exécution de ces ponts. Ici, au total, il y a une vingtaine de poutres qui sont côte à côte, à peu près 1,20 m d'espacés les unes aux autres, d'un mètre vingt environ. Et, mais on voit en fait que la structure elle arrive en bloc de 4 poutres à chaque fois. Ça fait un mini caisson. Et ça, c'est tout ça à la grue. Et donc la structure a été montée en 4 heures. Tout ça. Après, évidemment, les finitions au-dessus, ça c'était par la suite, mais vraiment la charpente bois, les délais d'exécution c'était 4 heures. Donc, comparé à un ouvrage en béton ou en acier, c'est relativement intéressant. Et ici, le choix qui a été fait par les concepteurs qui ne voulaient absolument pas traiter le bois pour une question de, voilà, de respect de l'environnement et des bilans aussi carbone, c'était d'utiliser donc pour les poutres intermédiaires qui sont protégées, donc pas directement exposées de l'épicéa, il me semble que c'est de l'épicéa, donc du bois classique. Mais par contre, pour les deux premiers éléments, donc cette poutre-là et l'opposé, et du bois exotique, donc de l'azobé en particulier, qui du coup est extrêmement résistant et durable. Pour les ponts en arc, on en a plusieurs. En plus, moi, j'aime bien, donc j'en ai mis plein. Mais du coup, ça remonte. Vous voyez, déjà aux États-Unis, il y a un très bel exemple que j'ai montré, qui date des 68 et qui est toujours en fonction, qui a été réhabilité cette année, enfin début 2022, et qui du coup est toujours en exercice. Et puis voilà, il y a plusieurs exemples un peu partout dans le monde, avec des bois bien sûr différents. Ça dépend des régions du monde, mais on retrouve à peu près les mêmes principes niveau fonctionnement et caractéristiques structurelles. Donc on peut avoir plusieurs types de ponts en arc, évidemment, et on peut avoir des arcs isostatiques, des arcs hyperstatiques, des arcs inférieurs, des bowstrings, etc. Donc là, les premiers que je vais vous montrer, justement, c'est aussi les plus âgés de ma troupe. C'est pour les Keystone White Bridge, donc qui se trouve en Californie. C'est un échangeur autoroutier aussi. Et vous voyez, en fait, il est composé. Il y a un pont principal, donc avec un arc et puis l'établier supérieur qui était à l'époque de la construction en béton, c'était un tablier bois-béton. Et puis ici, il y a pareil, il y a un pont à poutre, donc même principe, poutre bois lamellé collé et tablier béton. Alors, je dis à l'époque parce qu'en fait, donc là, les photos que je vous montre sont celles avant la réhabilitation de 2022. Je vous ai mis les liens pour ceux qui sont intéressés pour voir en fait assez à quoi ressemble le pont aujourd'hui. En gros, en fait, typiquement, c'est ce qui arrive fréquemment dans les ponts, et pas que les ponts en bois, c'est que l'ouvrage avait été conçu avec une durée de vie de 50 ans. Pour doubler la durée de vie davantage de 50 ans, ils ont décidé de renforcer l'ouvrage. Et donc, d'un côté, les arcs et les poutres principales ont été renforcés avec du FRP, donc des fibres, des fibres pour augmenter la résistance à la flexion. Et en même temps, ils ont décidé de réduire au maximum les charges, les poids propres de l'ouvrage, en remplaçant donc l'établier en bois par du tablier en CLT. Par l'établier, pardon, en béton, par un tablier bois. Et donc, aujourd'hui, la structure a été réhabilitée et prête pour fonctionner encore 50 ans. Ça, c'est un exemple au Japon, fait avec un cèdre local, un bois local qui est très résistant. Là, on voit que cette fois-ci, le pont, enfin, c'est un exemple de pont complètement encastré, donc complètement hyperstatique, d'arc hyperstatique. On voit ici les connexions qui permettent de reconstituer le monolithisme. Et c'était un des premiers ponts en bois au Japon qui a servi notamment pour faire des tests dynamiques, des tests statiques et dynamiques qui ont permis de rédiger les règlements japonais sur les ponts en bois. J'avance un peu parce que je vois que j'ai encore un peu de choses à vous raconter. Donc voilà, ça c'est des images, des tests, des connexions, les détails que je vous ai déjà montrés par ailleurs. Un autre pont aussi, encore aux États-Unis. Donc ça, pareil, c'était la réhabilitation de cet ouvrage-là, enfin le remplacement de ce pont en charpente métallique, en trimétallique par un pont en bois. Et il a gagné plusieurs prix de l'architecture et de l'ingénierie à l'époque de sa réalisation. C'était un des ouvrages les plus emblématiques aux États-Unis. Et donc, il y a eu plusieurs étapes de conception pour définir la structure qui permettait de mieux répondre aux exigences du site, notamment les crues assez importantes de la rivière que le pont devait franchir. Et au final, voilà, ça, c'est la solution qui a été retenue. Là encore, on a un tablier tout bois. Et on voit ici, voilà, donc on retrouve les lamelles, hein, avec les enturs que vous montrait Didier précédemment, la presse, donc avec le collage des différentes lamelles entre elles, et puis les poutres réalisées qui sont transportées donc par camion sur site. Et ici on voit l'assemblage. Donc en fait, on a assemblé d'abord les arcs, les deux par deux moitiés, et puis au-dessus on est venu construire le tablier. Un exemple en Autriche. Celui-ci en Douglas aussi. On retrouve là, c'est intéressant parce qu'on voit encore une fois toutes les couvertines métalliques qui permettent de protéger les zones sensibles d'humidification. Un autre pont en Suisse, un arc, cette fois-ci pareil, avec tablier bois-béton. Et on voit cette fois-ci, on reconnaît l'arc hypostatique par le fait que la section est variable et elle augmente quand on s'approche des culées, enfin des extrémités. Voilà, ça c'est quelques images de la réalisation. Vous voyez aussi encore une fois les sites très escarpés. Donc ils ont été ces sites très difficiles d'accès par des engins classiques des bétonneurs, disons. Alors que la structure en bois étant beaucoup plus légère, ben, c'est possible de la réaliser même dans des endroits qui sont très hostiles. Et pareil, c'est dans le même sens. Voilà l'exemple de ces petits ouvrages qui font partie en fait de la construction d'un chemin forestier, d'un nouveau chemin forestier en 2007 en Suisse, et elles ont été réalisées en quelques heures en amenant les tabliers, les éléments déjà préassemblés par un hélicoptère, puisque les sites étaient vraiment impossibles. Enfin, il avait déjà été reprofilé, mais même comme ça, on ne pouvait pas y accéder par grue. Donc, quelques détails sur les assemblages. Et pour finir avec les ponts en arc, ça, ce sont des exemples que vous verrez de plus en plus, surtout en Norvège, parce qu'il y a eu beaucoup de thèses, d'études et de recherches faites sur ces ponts-là. On les appelle les Network Arc Bridge. Donc, c'est des ponts bowstring, mais avec les suspentes qui sont croisées. Et alors, selon comment on croise les suspentes, les angles, etc., ça permet de maximiser la raideur du tablier. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, la comparaison entre un bowstring classique avec suspente verticale et les network bridge, où, en fait, vous voyez que finalement, le fait que ça soit beaucoup plus raide permet de mieux répartir les charges par rapport à un bowstring classique. Et donc, ça, c'est aujourd'hui la solution qui permet de franchir les portées les plus importantes. Cet ouvrage-là, qui est le record aujourd'hui en Norvège, a une portée totale de 90 mètres. Et ici, vous voyez, après, les études très complexes. Aujourd'hui, heureusement, on a des maquettes BIM qui permettent de définir jusqu'au moindre détail les assemblages, les protections, les couvertines, etc. Et ici, pour des questions, il s'agit encore une fois d'un ouvrage qui a été remplacé. Donc, il y avait déjà les profils en long qui étaient fixés et un tirant d'air à respecter assez strict. Et donc, pour minimiser l'épaisseur du tablier, on a utilisé un tablier, un BFUP précontraint longitudinalement. Là, quelques images de la réalisation, mais c'était surtout pour vous montrer la neige, et donc le fait que ces ouvrages-là ils se trouvent dans des pays où les conditions climatiques sont relativement extrêmes, et pourtant on arrive à en faire. Et puis voilà, ça c'était des étapes de la réalisation des assemblages en atelier. Enfin, quelques ponts spéciaux, disons un peu particuliers, dont cette fois-ci aussi des passerelles. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est un premier exemple aux Pays-Bas. Ce qui est intéressant sur ces ponts, c'est notamment les matériaux avec lesquels ils sont construits. En fait, c'est un bois qui s'appelle le bois d'Akoya. C'est un brevet. C'est un bois acétylé. Donc on lui fait subir des traitements chimiques qui permettent d'augmenter la partie de cellulose qui est hydrofuge, donc qui est résistante à l'eau. Alors que on supprime un petit peu, on réduit la partie hydrophile. Et donc, ce sont des bois qui sont chers, mais très durables, et qui, du coup, ne nécessitent d'aucun autre traitement. Et après, ils peuvent être, les formes, comme pour du lamellé collé classique, peuvent être très variables. Et ces exemples-là, il y en a deux jumeaux, en fait, et ce sont des ponts autoroutiers. Un exemple en France, ça a été réalisé déjà, enfin en 2017, il y a un guide du CEREMA qui est sorti pour présenter ces ouvrages. C'est un passage faune, mais qui a été calculé comme un ouvrage, comme un pont route de catégorie 2. Et là, la particularité, c'est que du coup, c'est un ouvrage à poutre droite, à lamellé collé et tablier béton. Et pour réaliser les sections importantes de poutre, comme expliqué tout à l'heure Didier, en fait, on a fait recours à du bois lamellé collé en bloc. Donc en fait, et on a ici dans les cas précis, on a quatre poutres en lamellé collé qui sont recollées entre elles pour créer une section que la section qu'on souhaitait. Bon, après il y a toute une série de détails, notamment pour éviter que le bois ne pourrisse à contact avec la terre, et donc on voit une retombée béton, etc. Tout ça, ce sont des aspects. Bon, je vous en parlerai dans le prochain cours. Très important pour assurer la durabilité de ces ouvrages. Et voilà, ça, c'est un exemple donc des ponts suspendus, c'est une passerelle, mais aussi qui peut permettre la circulation des petits engins, comme vous voyez dans l'image ici. Et donc c'est un tablier bois-béton, mais le béton il est non collaborant, donc pareil, il y a un déplacement relatif qui est possible entre les poutres et la dalle. Et puis voilà, les câbles qui permettent de suspendre le tablier. Un exemple de passerelle avec poutres latérales, cette fois-ci, les poutres sont à U, c'est une structure à U, donc les poutres sont de part et d'autre du tablier, et du coup, elles font office de garde-corps. Et alors, la poutre principale est protégée par ce bardage-là, qui est un bardage donc sacrificiel, et qui peut être retiré, même pour respecter les poutres. Et vous voyez là, en sous-face, donc la structure porteuse qu'on voit en bas à droite. Un exemple en Italie, donc ça c'est une passerelle piéton et cycle, mais elle est intéressante par sa portée, parce qu'on a une portée de 90 mètres pour la portée principale. Et puis vous voyez encore une fois, c'est une structure assez intéressante parce qu'on a une structure sous-tendue pour la travée centrale et qui repose, en fait les appuis sont finalement constitués par ces câbles, ces tirants, qui sont après qui reliés à ces deux pylônes de part et d'autre. Donc, c'est une structure assez particulière. Ici, on voit d'ailleurs les contextes. Hein, ça, c'est un ancien pont romain. D'où, en fait, aussi le choix du bois, parce que ça s'est marié bien voilà, avec la pierre alentour. Et puis, on voit ici la structure, donc la lenticule inférieure, là. Les poutres principales sont en lamellé collé, tout comme les poutres au vent. On a après des croix de Saint-André métalliques, des suspentes métalliques, et on retrouve, on le voit mieux dans la slide d'après, voilà, ici on a utilisé du cuivre, et vous le reconnaissez par sa couleur verte. On retrouve donc toutes les couvertines sur tous les éléments directement exposés à la pluie. Là, on voit même, voilà, on a fait des petits rebords en cuivre pour justement protéger ce qu'il y a, les poutres en dessous. Donc ça, c'est une conception, disons, intelligente avec du bois. Et un exemple qui vient d'Allemagne, mais vous le verrez bientôt à Paris, parce qu'en fait, c'est les mêmes bureaux d'ingénieurs et d'archi qui a gagné la passerelle de la Solideo. Donc, c'est une future passerelle qui permettra de franchir la 1 pour relier le village olympique, en fait, depuis Paris. Et donc, c'est la même typologie que celle que je vous montre ici, qui a été réalisée en 2017. Et ici, en fait, la particularité, c'est que l'ingénieur, qui est un spécialiste, évidemment, bois, il a joué sur le fait d'avoir des poutres. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais en fait, les poutres en lamellé collé sont placées à l'horizontale, collées entre elles pour avoir une poutre à section variable. Et la section varie de façon à respecter un angle de 30 degrés, parce qu'en fait, c'est l'angle conventionnel des puits qu'on considère. Et donc, de cette façon, on peut dire que finalement, toute la structure, elle est protégée par le tablier au-dessus qui est en béton. Et donc, il n'y a pas besoin de traiter le bois. Enfin, en tout cas, de traiter la surface du bois. Après, il y aura le traitement en cœur, mais ça minimise en tout cas les traitements chimiques. Et ça, c'est un autre exemple du même bureau d'ingénierie. Et vous voyez là, pour le coup, il s'agit d'une passerelle avec des câbles. Donc c'est un mélange, enfin c'est un hybride suspendu, disons, avec les mêmes systèmes de poutres à lamellé collé à bloc et à section variable. Et pour finir, un exemple en Norvège, ça c'est pour vous montrer qu'on peut faire aussi des passerelles pour les skieurs. Ça c'est un domaine skiable en Norvège, donc ça c'est pont pour les skis et pour les skieurs. Et donc vous voyez, ils sont entièrement recouverts de neige, hein, et tout est en bois. Mais l'astuce ici, et intelligente, je dirais, du donneur d'ordre en particulier, c'est que la durée de vie de ces ouvrages n'est pas de 100 ans, comme on fait d'habitude pour les ponts. Ils ont une durée de vie de 40 ans, parce qu'on estime que ça coûte moins cher de les détruire et les remplacer par une nouvelle passerelle au bout de leur vie utile, plutôt que de concevoir des structures avec des détails constructifs qui pour assurer une durabilité de 100 ans. Et puis, ce qu'il m'a dit un des constructeurs il n'y a pas très longtemps, c'est à quoi bon concevoir un pont pour une piste de ski avec une durée de vie de 40 ans, si dans 40 ans, on n'est même pas sûr qu'il y aura encore de la neige en Norvège. Donc voilà, très sage. Et donc, pour conclure, pourquoi les bois en ouvrage d'art? Mais parce que, comme vous l'avez vu, il s'agit d'un matériau très léger comparé aux autres matériaux de construction. Et donc, ce qui en facilite en fait la mise en place, même dans des sites difficiles d'accès. C'est un matériau qui peut être aussi largement préfabriqué, enfin les structures peuvent être fabriquées largement en atelier, donc on arrive sur place déjà avec des grosses parties préassemblées et on n'a plus qu'à faire le montage final sur site, ce qui du coup réduit énormément les délais d'exécution et donc les durées des chantiers. C'est un matériau renouvelable qui est largement disponible, comme Didier vous le montrait, à l'échelle européenne. Il est évidemment écologique parce qu'une tonne de bois permet de stocker environ 2 tonnes de CO2 et bien sûr c'est un matériau donc écologique et organique. Et donc ce qui est important c'est aussi d'analyser non seulement étudier disons les différentes applications et d'essayer de les concrétiser, mais c'est aussi après d'étudier les systèmes de revalorisation, réemploi, recyclage en fin de vie pour assurer du coup pour fermer la boucle et assurer du coup que tous les cycles soient vertueux.